Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
En mai 2020, à Lyon, Benjamin Cotu s'avoisine de palier d'un coup de couteau. Et son mobile est incroyable. Elle fêtait la fin du confinement. Il ne supportait pas qu'elle fasse du bruit. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Benjamin Cotu.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte. Côte B sur Europe 1.
Le 16 mai 2020, à Lyon, Benjamin Cotu, 39 ans, appelle la police. Il est excédé.
J'en ai marre. J'en peux plus du bordel qu'il fout au-dessous. C'est toujours chez Roman. J'en ai marre, vous comprenez, je vous ai déjà appelé X fois. Vous pouvez faire quelque chose pour qu'il se taise. C'est pas parce que c'est la fin du confinement que les gens peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Si vous faites rien, eh ben je m'en charge.
Quelques minutes plus tard, ce sont les amis de Roman qui appellent les pompiers.
Pompiers, j'écoute.
Il y a un voisin qui a planté un coup de couteau dans la chambre de ma copine. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. On est dans le troisième, à Lyon.
Et est-ce qu'elle saigne?
Oui. Oui, ça saigne encore.
Ok, vous prenez un linge. Vous appuyez sur la plaie. Et vous la stimulez, vous la stimulez. Vous appuyez très fort sur la plaie. Mettez-lui les jambes en l'air. Les pompiers sont en route.
La vie sociale va reprendre, donc, mais là encore, progressivement. Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation. Au fond, ce que je vous propose de rétablir, c'est un régime de liberté dans lequel nous devons fixer des exceptions.
C'est une super nouvelle. Ça va nous faire tous plaisir, va tous nous réchauffer le cœur de nous retrouver. Une bière, de la musique, quelques amis. C'est la soirée importante, la soirée des retrouvailles. Et ça fait du bien de se dire que maintenant, c'est... à portée, quoi.
C'est le moment où on vient d'annoncer le déconfinement. Je suis sur ma terrasse dehors et je vois apparaître donc le nom de mon ami.
Jean-François Julien, avocat de la famille de Roman Dufour.
Et puis c'est le choc. Et là, vous avez tout qui tombe sur les épaules. C'est dur de passer en fait d'un moment où vous êtes heureux de retrouver des amis, de déconfinement, etc., à une masse qui tombe sur vous en pensant qu'il y a des gens qui sont en train d'assister et d'attendre la mort de leur fille. Puis on a envie de les assister, on a envie de les soutenir.
Roman Dufour a reçu un coup de couteau dans l'artère iliaque gauche. Pronostic vital incertain. Après 2 jours d'hospitalisation, Roman Dufour décède. Elle avait 21 ans.
Et je peux vous dire que c'était une chape de plomb qui tombait sur le cabinet. Et lorsque la maman de Roman m'a appelé pour me dire « c'est fini », je peux vous garantir que dans le cabinet, ça a été un silence pendant un long, long, long moment. On a eu beaucoup de mal à digérer le décès de cette jeune fille. D'habitude, il n'y a pas trop d'affect, on met de la distance, même si évidemment c'est difficile pour un avocat. Là, le problème, c'est qu'on n'enlève pas l'affect. Et ce que vous pouvez expliquer plus ou moins froidement à des gens qui sont des clients lambda du cabinet, c'est beaucoup plus difficile de l'expliquer à des gens qui, d'abord, vous connaissez, qui sont en plus d'une gentillesse extraordinaire.
C'est l'un des drames de la fin du confinement. Un homme de 38 ans a tué sa voisine d'un coup de couteau. En garde à vue, il aurait indiqué qu'il ne supportait plus les bruits qui provenaient de l'appartement de sa voisine. Cet homme est inconnu des services de police et il n'a aucun antécédent judiciaire.
Pourquoi est-ce que vous l'avez tué? J'en pouvais plus de ces bruits. Alors je voulais que ça cesse. Et pour lui faire peur, je suis descendu avec un couteau de cuisine. J'ai tapé à la porte, j'ai crié, j'étais énervé. Elle m'a ouvert, J'ai avancé vers elle. Le couteau s'est enfoncé en elle. Elle a dit que j'étais fou. Enfin, je sais plus quoi. Mais je pense que c'est ce qu'elle a dit.
L'auteur des faits est quelqu'un que l'on ne remarque pas.
Éric Mazeau, avocat général.
Un voisin extrêmement discret, presque passe-muraille. Bonjour, bonsoir. Et il y a quelque chose de terrifiant ou de glaçant de considérer que ce voisin puisse sortir de chez lui, sonner à votre porte, vous planter un couteau jusqu'à la garde dans le corps, menacer vos amis, rentrer chez lui et ensuite nettoyer le couteau, le reposer à l'endroit où il était, dans le tiroir de la cuisine, et reprendre une partie de Scrabble là où elle était commencée. C'est terrifiant.
Je me suis dit, c'est pas possible. Lorsque je lisais ça, je me disais, ce type, il y a un problème psychiatrique derrière extrêmement important. Et j'avais commencé d'ailleurs à préparer un petit peu la famille de Roman en disant, écoutez, la façon dont ça s'est commis, je m'interroge sur la responsabilité pénale. Je me suis vraiment interrogé sur la responsabilité pénale.
C'était au début vraiment de mon exercice et je faisais encore à cette époque-là des permanences garde à vue.
Léa Forest, avocate de Benjamin Co.
Je me souviens avoir eu la coordinatrice garde à vue, donc c'est un autre avocat qui coordonne un peu l'action des avocats qui interviennent en garde à vue, qui m'a dit, bah là on est sur un truc un peu gros, si tu veux prendre le dossier, donc bien évidemment j'ai accepté et je me suis rendue immédiatement après en garde à vue. Quand on rencontre toute personne qui est placée en garde à vue, on se trouve dans un bureau, bien évidemment, c'est confidentiel. Il n'y a rien d'autre qu'une table et mes affaires personnelles si j'ai besoin de quoi noter, etc. On a le droit à un entretien de 30 minutes avec la personne gardée à vue. Donc parfois, ça se déroule en 5 minutes parce que n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est rare quand j'utilise les 30 minutes aussi. Mais je pense que lui, on a bien mis 30 minutes, voire même peut-être un peu plus. Parce que parfois, ils accordent 2 ou 3 minutes en plus. Mais je pense qu'on a bien mis 30 minutes à s'entretenir pour avoir le temps de se comprendre. On se demandait un peu qu'est-ce que cet homme faisait ici. Parfois, on arrive à comprendre de par le comportement ou de par les gestes ou la parole, mais on arrive vite à voir si c'est complètement fou ce qui se passe ou pas. Et là, ça l'était complètement parce que justement, il était beaucoup replié sur lui-même. Dès qu'il a essayé de s'exprimer, il bégayait et vraiment, il a des troubles visuels. Donc en plus, j'ai vite compris, avant même qu'il me le dise et que je mesure l'ampleur, qu'il me voyait pas forcément, qu'il me discernait pas exactement, à part savoir que j'étais une femme parce qu'il m'entendait. Je pense qu'il a mis du temps après à me reconnaître et à savoir qui j'étais.
Code B17. Enquête de personnalité d'Axel Rocher. Benjamin Co est atteint d'une amblyopie de naissance, un handicap visuel pour lequel il est reconnu adulte handicapé à 80%. De plus, à la suite de 2 accidents, Benjamin Co n'a plus la capacité de se déplacer aisément et normalement, ses 2 genoux ayant été atteints.
Ça se voit qu'il n'a pas de simples lunettes pour corriger un petit handicap visuel. Et en fait, on était dans la période Covid encore. Les surveillants donnaient à tous les détenus qui rentraient dans le parloir avocat des petites lingettes pour s'essuyer les mains. Et il s'est essuyé les mains et il voulait jeter cette lingette dans la poubelle qui était vraiment, c'était le seul objet dans la pièce dans laquelle on était. Et j'ai compris qu'il ne voyait absolument pas la poubelle dont on lui parlait, qui était assez grosse, qui avait un sac noir en plus, donc assez visible. Et là, je me suis dit, d'accord, je comprends qu'il ne voit absolument rien. Parce que j'ai dû, du coup, apporter la poubelle à hauteur de sa vue à lui et à 2 cm de son visage. Et après, je l'ai vu aussi son handicap, parce que tant qu'il m'entendait pas parler, il savait pas à qui il venait le voir.
Alors dites-moi, monsieur Co,
Quels sont vos souvenirs de ce soir où vous avez tué cette jeune femme?
Eh bien, maître, elle faisait trop de bruit. Donc j'ai pris un couteau pour leur faire peur et je suis descendu les voir. En arrivant devant la porte, j'ai sonné. Une personne a ouvert, je pense que c'était une femme, mais j'en suis pas sûr. Je vois pas bien. C'est pas évident de voir, pour moi. Je lui ai demandé d'arrêter tout ce bruit insupportable. Et en même temps, j'avançais avec le couteau. J'ai pas réalisé que le couteau entrait dans cette fille. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas senti.
L'expert judiciaire ORL,
Éric Mazot, avocat général,
nous a indiqué que il était faux de considérer que les déficients visuels avaient pour habitude de développer d'autres sens, et en particulier celui de l'ouïe. Ça, c'est une réflexion du commun, mais pas du tout pour cet expert, hein, qui explique que ça n'a strictement rien à voir et que M. Benjamin Co, au contraire, souffrait également d'une légère surdité. Ceci étant dit, on n'a relevé aucune particularité chez l'intéressé au niveau des capacités auditives. Donc aucun trouble de l'audition susceptible de provoquer des réactions violentes. On n'a aucun phénomène de type hypoacousie, de type acouphène. Et on est même allé chercher, j'ai posé la question, de la haine du bruit, ce que l'on appelle la misophonie. Mais c'est un phénomène psychique ou neuropsychique, hein, susceptible de générer une telle violence. Elle m'a dit non, pas du tout, nous étudions, hein, également, bien que ce soit du ressort de la psychologie, ces phénomènes de misophonie, et M. Benjamin Co n'en est pas atteint.
La voisine du dessous faisait bien du bruit ce soir-là. En revanche, il est le seul voisin à dire que ce bruit était insupportable. Les autres disent que c'était un fond sonore pas incommodant.
Il n'a pas un délire de persécution. Il n'invente pas le bruit. Le bruit, il est bien réel.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
Il ne pense pas que les voisins font un complot pour lui gâcher sa vie. Vous voyez, il n'y a pas d'élément délirant. Pour moi, il n'y avait pas d'altération du discernement, ni d'abolition. Parce qu'il n'y a pas de pathologie psychotique, c'est pas quelqu'un qui est traité, pas schizophrène, il n'y a pas de délire de persécution.
Code B12, expertise psychologique de Xavier Renaud. Benjamin Co déclare avoir pris connaissance de son passage à l'acte une fois retourné chez lui. Il nous dit, en remontant chez moi, j'ai vu qu'il y avait du sang sur le couteau, je ne l'avais pas vu avant. Alors j'ai lavé le couteau et je me suis assis pour me détendre et faire un scrabble sur l'ordinateur. C'était un immense soulagement d'avoir enfin le silence. La musique était coupée. C'était un soulagement incroyable.
Il parle, on va dire normalement, même si le terme normal a mauvaise presse. En revanche, ce qui est très, très étonnant, c'est la distance entre ce qu'il raconte de façon factuelle, parce qu'il y avait du bruit, il a quand même tué quelqu'un, et il raconte ça comme si c'était un litige banal. Il y a un contraste qui est tout à fait saisissant entre finalement la normalité de son expression et l'anormalité, mais avec un apostrophe, de ce qu'il a fait. Et ça, c'est pas normal. Il est très désaffectivé, très froid, pour parler plus simplement. On peut un peu le comparer à un ordinateur, si on veut. Est-ce que c'est possible de fonctionner comme ça et d'aller bien? Oui, jusqu'à un certain point. Mais le plus probable, c'est qu'un jour, tout ça se casse la figure. Et que ça se casse la figure, soit sur le mode de la dépression, soit sur le mode du passage à l'acte. Et chez M. Coe, ça a été sur le mode du passage à l'acte. Chez M. Cole, tout le système, le château de cartes s'est effondré au moment des faits. Il n'est pas capable d'être en relation avec les autres. Oui, mais les autres, ils existent.
Code B12, expertise psychologique de Xavier Renaud. Benjamin Coe présente une personnalité clivée, marquée par d'importantes défaillances narcissiques et identitaires. Il présente également d'importants troubles de la relation et de la socialisation, associés à une forte introversion et des difficultés de discrimination et de perception de ses propres vécus émotionnels et de ceux d'autrui.
Monsieur Coe, c'est une personne qui ne peut pas, je dirais, être en relation avec les autres. Il n'y arrive pas. Et la meilleure preuve, c'est que quand je le vois, il a 39 ans, il n'a jamais eu de rapport sexuel. Il n'a pas de vie affective. Je pense qu'il n'a pas de vie amicale. Alors, me demandez pas à partir de quel âge l'entrée dans la vie sexuelle est tardive. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais 39 ans, il y a un problème. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est isolé. Alors, on fait souvent le procès aux psy de tout ramener au sexe, mais peut-être parce que tout simplement, ils sont plus francs que les autres. Le sexe, c'est très important, la vie sexuelle. On peut avoir une vie sexuelle épanouie que lorsque on est suffisamment mature. Il faut avoir suffisamment grandi de façon psychique. C'est donc très important. C'est le stade ultime du développement. Et quand un psychiatre ou un psychologue parle de sexualité, il ne parle pas que de l'acte, il parle aussi et surtout d'ailleurs de toute l'affectivité. On peut penser que le confinement allait dans le sens de ce repli ou de cette impossibilité à être en contact avec les gens. Et que ce bruit là lui a amené sous le nez une réalité qu'il ne peut pas gérer. En plus, c'était une fête tout à fait sympathique, c'est-à-dire il y avait aussi, on peut peut-être ici imaginer que il avait quelque chose qui n'était pas supportable, c'est des gens qui, eux, savent se faire plaisir. Parce que lui, il ne sait pas faire, sauf de façon très intellectuelle avec le Scrabble et les échecs. Voilà. Il y avait peut-être aussi ça, eux, ils arrivent à se faire plaisir, moi, je ne sais pas faire. En plus, les échecs, ça a quelque chose de très impersonnel. C'est-à-dire, si vous faites le bon calcul, ça marche forcément. C'est le contraire de ce qui se passe dans la vie.
Chez lui, c'est finalement l'univers où il joue. Mais attention, chez M. Benjamin Coe, le jeu n'a aucune dimension ludique. C'est une discipline qui exige silence et concentration, échec et Scrabble. Donc, les autres, ben, ce sont ceux qui font du bruit.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme.